Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, voici les titres de ce journal. Le ministre de la Santé a déclaré ce samedi une épidémie d'Ebola après la confirmation d'un cas dans la zone de santé de Ouangata, dans la ville de Mbandaka, chef de la province de l'Équateur. C'est la troisième flambée épidémique dans cette province depuis 2018. Nord Kivu, le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, a pris officiellement ses fonctions ce samedi à Beni. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise de commandement présidée par le gouverneur de la province Nord Kivu à l'état-major de FARDC à Païda. Notre invité, le coordonnateur du conseil agricole rural de gestion au Kasaï Oriental, Isidore Tipanza, salue l'initiative d'introduire la farine panifiable et du manioc dans la fabrication de pain. Interview à suivre à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre de la Santé a déclaré ce samedi une épidémie d'Ebola après la confirmation d'un cas dans la zone de santé de Ouangata, dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Il s'agit de la troisième flambée épidémique dans cette province depuis 2018. Noël Aluzitu.
Jusqu'à présent, un seul cas a été confirmé. Le patient, un homme de 31 ans, a commencé à ressentir des symptômes le 5 avril. Le 21 avril, le patient a été admis dans un centre de traitement Ebola pour des soins intensifs, mais il est décédé plus tard dans la nuit. Après avoir reconnu les symptômes, les agents de santé ont immédiatement prélevé des échantillons pour les analyser au laboratoire en vue de détecter la maladie à virus Ebola. Des enquêtes pour déterminer la source de l'épidémie sont en cours. Dans sa déclaration, le ministre provincial de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a précisé que les équipes de la division provinciale de la santé et de la zone de santé de Mbandaka sont déjà sur le terrain pour mener des activités de riposte, notamment le pistage et le suivi d'environ 74 cas, ainsi que la décontamination des centres médicaux par où était passé le patient, ainsi que certains ménages. Selon Dr Machidiso Mweti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, la maladie a pris une longueur d'avance de 2 semaines, rassurant tout de même que les autorités sanitaires de la RDC ont plus d'expérience que quiconque dans le monde pour contrôler rapidement les épidémies d'Ebola. Notez que la RDC a connu 14 épidémies d'Ebola depuis 1976. Il y a eu 6 épidémies depuis 2018 seulement. Dans la province de l'Équateur, les précédentes flambées remontent à 2020 et 2018 avec respectivement 130 et 54 cas enregistrés.
Au Nord Kivu, changement à la tête du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le nouveau commandant secteur, le général de brigade Kasongo Maloba Robert, a pris officiellement sa fonction ce samedi à Beni. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise de commandement présidée par le gouverneur de la province de Nord Kivu à l'état-major des FARDC à Païda. Le commandant secteur entrant qui vient de l'Ituri remplace à ce poste le général de brigade Bertin Poutela qui a passé 10 mois à la tête de ce secteur. Le gouverneur de province appelle la population à appuyer le nouveau commandant pour l'aider à combattre l'ennemi commun ADF. Le lieutenant général Constant Dima le dit au micro d'André Kitengue.
Je suis venu présider moi-même cette remise et reprise de commandement pour redonner encore plus de souffle à l'armée dans la lutte contre les ADF que nous menons aujourd'hui et dans les opérations conjointes avec l'UPDF qui est sur le terrain aussi. Mais ce que je peux vous dire, que le commandant secteur Sokola, un grand nom sortant, n'a pas démérité. Il a plu à la haute hiérarchie de les rappeler à Kinshasa pour haute fonction. Le général Poutela qui était avec eux, nous ne voyons pas l'individu, nous ne voyons pas l'homme qui est Poutela, nous voyons sa fonction. Et le général Kasongo qui vient d'entrer, que les militaires le voient pas en individu, mais ils doivent le voir aussi en fonction. Notre population a besoin du résultat. Ils n'ont pas besoin des individus, mais le général qui vous parle, il peut partir aujourd'hui. Un autre va venir. Notre population a besoin du résultat et non des individus. Donc, ils doivent avoir confiance au nouveau commandant qui arrive, de l'appuyer comme la population le fait d'habitude, pour qu'ensemble, nous combattons cet ennemi désormais.
Nord Kivu encore, un civil a été tué et plusieurs autres portés disparus dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF. Hier vendredi à Mambaou, un village du secteur Benimbaou en territoire de Beni. Outre ces bilans, la société civile locale qui indique que les dégâts matériels ont été également enregistrés. Il s'agit notamment d'une dizaine de maisons incendiées. Kinos Katuo, président de la société civile de Mamov, explique encore une fois au micro d'André Kitengue.
Il y a eu encore massacre de la population vendredi. Pour le moment, nous avons un bilan d'une personne tuée, d'autres blessés, plusieurs personnes portées disparues, 15 maisons incendiées et des motos aussi incendiées. Et l'ennemi était venu vers Kitevia Mapasana, où il est localisé dans une école de la place. Aussi, d'autres groupes de cet ennemi est situé vers Mabatondo Mapasana, en allant vers le village Mutoui. Nous sommes en train de demander à la population qui nous suivent, et surtout la population de Mangazi, Mamonvin, Pingi, Mabatundu, de ne plus fréquenter encore ce Condré, car voilà encore l'ennemi localisé dans ce village. De nous amener aussi les informations, de nous alerter au moment opporté, afin que nous puissions alerter aussi l'armée pour prendre des dispositions afin de bouter trop loin l'ennemi, que la population puisse vaquer librement ses occupations.
Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Ingrand Nord dit vouloir réunir tous les éléments d'information avant toute déclaration. Toutefois, le capitaine Anthony Mualushai souligne que l'attaque a eu lieu dans une région où les Maïmaï restent actifs. Et puis, rencontre de Nairobi sur la sécurité à l'est de la RDC. Dans une déclaration aujourd'hui à Goma, la société civile du Nord Kivu dit rejeter tout dialogue avec les groupes armés en dehors du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation. C'est du moins ce qu'a déclaré le chargé de la bonne gouvernance de cette structure citoyenne. Étienne Kambalé estime que les pays de la sous-région devraient respecter la RDC, pays envers lequel ils ont des obligations édictées par l'accord cadre d'Addis Abeba. Les propos d'Étienne Kambalé ont été recueillis par Sifa Maguru.
La République démocratique du Congo a un programme de démobilisation interne et réinsertion communautaire des groupes armés. Tout dialogue allant dans le sens de s'entretenir avec les groupes armés est nul et de nul effet, et la population de la RDC ne le souhaite pas. C'est pour cette raison-là que nous en appelons aux chefs d'État des pays de la région de respecter l'accord cadre pour la paix dans la région des Grands Lacs, qui a des obligations des pays de la région à l'égard de la RDC. Ce n'est pas un secret pour les citoyens de la région des Grands Lacs que certains groupes armés bénéficieraient de l'appui de certains pays de la région. Le peuple est derrière son armée et ses autorités pour que les accords qui ont été signés soient respectés par notre pays, mais aussi par les pays de la région.
Les activités judiciaires sont paralysées dans les territoires du Diofa, en province de Kwilu. 45 dossiers sont en souffrance depuis le départ d'un des deux juges qui siègent au tribunal de paix. La nouvelle société civile indique que cette situation est à la base de la récente évasion de détenus au parquet près ce tribunal à la suite de longues procédures sans décision judiciaire. Arsène Kassiama, son coordonnateur, exige l'installation d'un tribunal de grande instance dans les territoires du Diofa afin d'éviter les cas d'évasion des justices populaires fréquents dans cette partie de la province. Il a été joint par Irène Boma.
Nous avions un des juges, il est rentré sur Kinshasa. Suite à un problème purement personnel, il a plié ses bagages, il a laissé 45 dossiers en souffrance. Donc depuis qu'il est ici plus de 6 ans, jamais prononcé un dossier et il est rentré. Nous demandons maintenant, quel est le sort de nos prévenus ici à Idiofa? Nous demandons au conseil supérieur de la magistrature de pouvoir nous envoyer des magistrats à Idiofa, tant au tribunal comme au parquet, parce que vraiment ça ne va pas. Qu'un tribunal de grande instance soit aussi implanté à Idiofa, parce que Idiofa c'est un grand territoire de 2000 km². La distance qui sépare Idiofa de Boulou est très grande. Au niveau du parquet, c'est un seul magistrat. Au niveau du tribunal aussi, un seul magistrat. Vous voyez, l'évasion au niveau du tribunal était suite à cela, parce que nous avions reçu la réclamation des prisonniers qui disaient que leur tribunal avait beaucoup duré. Au lieu de prononcer, on ne prononçait pas.
Et tout à fait autre chose à présent, célébration ce 23 avril de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À Butembo, au Nord Kivu, le livre a été hier vendredi au centre d'une réflexion entre les écrivains locaux, les gestionnaires de la Bibliothèque nationale, antenne locale et les autorités de la ville. Ils ont voulu recueillir des problèmes auxquels sont confrontés les écrivains et proposer des pistes de solutions afin de promouvoir ce secteur. Le chef de bureau urbain de la culture, art et patrimoine a encouragé les écrivains à aller de l'avant, Leurs difficultés seront prises en compte par la hiérarchie. Moana Isengeta est au micro de Grâce Amzati.
Nous avons des écrivains très courageux, très dynamiques à Butembo. Ils ont de bonnes œuvres de l'esprit, c'est-à-dire le livre. Vous comprenez que le livre attaque une œuvre de l'esprit, attaque une œuvre transmetteur de messages éducatifs. C'est une œuvre culturelle. Nous les avons encouragés. Nous sommes dit qu'ils continuent à écrire, d'exploiter les réalités de la ville, les réalités du pays, pour qu'ils transmettent ça à la population. Nous allons contacter le Fonds de promotion culturelle, qui est une banque pour sponsoriser, pour aider les écrivains à se développer. Ils sont nombreux ici, parce que nous les avons identifiés, mais ils traversent beaucoup de difficultés. La population ne lit pas nos écrivains. Il n'y a pas de maison d'édition de Butembo. C'est un défi à relever. Nous y avons réfléchi et nous allons présenter le cas à la hiérarchie. Son Excellence Madame Katungu Furaha, elle a promis de soutenir les écrivains. Elle a aussi beaucoup parlé sur une maison d'édition parce que c'est dans son plan d'action de cette année ici. Les droits d'auteur, nous devons les respecter parce qu'on ne peut pas accepter qu'un livre soit piraté par ceux qui ne l'ont pas édité, ne l'ont pas écrit.
Dans le même registre, le gouvernement doit installer les bibliothèques dans toutes les entités du Congo central pour promouvoir la culture de la lecture chez les enfants et les jeunes. Déclaration faite ce samedi à Matadi par l'écrivain Alphonse Lokotsumbu, alias Mwana Banza, à l'occasion de cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Celui-ci regrette qu'aucune activité n'ait été organisée à Matadi à cette occasion. L'écrivain Alphonse Lokotsumbu est au micro de Nana Plurish Mambou.
Notre objectif, c'est d'inculquer à la jeunesse la culture lecturielle, parce que la jeunesse a perdu cette culture-là. Parce qu'en principe, c'est le livre qui donne accès à la connaissance scientifique. Oui, l'État congolais peut aider la jeunesse en créant plusieurs bibliothèques. C'est-à-dire qu'on devait installer des bibliothèques au niveau des villages. Chaque chef-lieu de secteur devait avoir une bibliothèque publique. Et au niveau du territoire aussi, au niveau des villes aussi, au niveau des universités, à Matadi. Et jusque-là, nous avons seulement des grandes bibliothèques. Il y a tout un budget pour la culture et la recherche. C'est plus de 85 millions de francs congolais. Mais malheureusement, on ne voit pas l'accompagnement du gouvernement provincial. Là, c'est trop déplorable. Parce qu'une journée comme ça, on devait organiser des concours de lecture. Et un concours pour la dictée, un concours pour la lecture, peut-être déclamer des poèmes.
La République démocratique du Congo est l'invité d'honneur de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anamoubo Femoua qui aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 10 au 15 mai prochain. Le festival aura lieu autour du thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». L'annonce a été faite ce samedi au cours d'une conférence animée par le commissaire général de ce festival, l'artiste ivoirien Salif Traoré, dit Asalfo, patron du groupe Magic System. Le choix de la RDC intervient après celui du Sénégal et du Burkina Faso. Selon Asalfo, deux critères ont motivé ce choix de la RDC, entre autres la mort de Papa Wemba il y a 6 ans sur la scène de ce festival et l'inscription de la rumba comme patrimoine mondial culturel immatériel de l'humanité.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, une hausse des cas de Covid-19 fait craindre une nouvelle vague. Alors que l'Afrique du Sud connaissait jusqu'à présent une accalmie sur le front de la pandémie de Covid-19, une récente hausse des cas pourrait présager de l'arrivée d'une nouvelle vague ces prochaines semaines. Le ministre sud-africain de la Santé parle même des signes inquiétants qui continueront d'être scrutés de près par les autorités pour gérer au mieux une possible résurgence des cas. Au Gabon, les principaux leaders de l'opposition se sont rassemblés ce samedi à Lambaréné, dans l'ouest du pays, pour une journée consacrée à la problématique de l'alternance. Une journée de débats, échanges, analyses à l'initiative des parlementaires et qui a rassemblé une centaine de députés, sénateurs et élus locaux. Ainsi, l'opposition s'active pour battre le président Ali Bongo et le parti PDG lors du scrutin de 2023.
L'invité.
Les experts en matière agricole saluent l'initiative d'introduire la farine panifiable du manioc dans la fabrication des pains, mais ils estiment que la stratégie mise en place par le gouvernement nécessite des études pour soutenir et augmenter la production du manioc. Nous en parlons avec notre invité Isidore Tipanza, coordonnateur du Conseil agricole rural de gestion au Kassai Oriental. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Isidore Tipanza. Nous avons tous appris que la RDC vient d'introduire la farine panifiable du manioc dans la fabrication des pains. Cette stratégie mise en place par le gouvernement peut-elle être bénéfique pour la province du Kasaï oriental où on produit plus de maïs que du manioc? Le maïs est même considéré comme aliment des bases de la province.
Bonjour, merci madame de l'opportunité. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement à travers leurs excellences, monsieur le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'Industrie pour l'initiative et les soucis de la promotion de l'industrie agro-pastorale à travers cette stratégie. Je voudrais d'abord rectifier par rapport au manioc, c'est le maïs qui est déficitaire au Kasaï oriental et non le manioc. Selon les statistiques de l'inspection professionnelle de l'agriculture en collaboration avec le service national des statistiques agricoles, donc le manioc est excédentaire. Pour revenir à la question, je pense que, comme je l'ai dit tout haut, la stratégie est salvatrice, non seulement pour pallier à la carence, c'est pour promouvoir aussi l'agro-industrie. Par rapport à cette carence constatée, par rapport à la farine de froment, que le pays, la RDC, ne puisse pas souffrir aussi longtemps que nous avons des terres arables que nous pouvons développer.
Et quels sont les territoires qui produisent du manioc au Kasaï oriental?
Il y a le territoire de Katanda qui est en tête, il y a le territoire de Lupatapata, le territoire de Miabi, suivi de Kabeyakamwanga et Chilenge, qui n'a pas une forte production.
Vous venez de dire que le manioc n'est pas déficitaire au Kasaï oriental. Pensez-vous que la quantité du manioc produit dans le Kasaï peut être utilisée dans le ménage comme foufou et une autre quantité comme farine panifiable?
C'est la problématique de nos statistiques, comme je venais de le dire, qui doivent être actualisées parce qu'il ne faudra pas que la demande en consommation humaine et aussi en consommation animale dans l'élevage puisse aussi souffrir de cette demande dans la panification. Il faut une étude parce que si nos statistiques ne démontrent pas que uniquement avec notre production, là il faudra peut-être que maintenant le gouvernement arrête des stratégies qu'il faudra pour que nous puissions doubler ou tripler la production de manioc pour qu'on n'arrive pas au pire.
Que faudra-t-il faire pour augmenter la production du manioc au Kasaï oriental?
Il faudra soutenir la production. On doit organiser la chaîne de valeur. On doit disponibiliser les outils de récolte, rapage et transformation. Vous savez, la récolte, planter le manioc, ça, c'est pas un problème. Mais à la récolte, ça pose un problème. Parce que comme nous sommes dans l'industrie, il faudra des espaces de superficie qui demanderont vraiment qu'il y ait une forte main d'œuvre en rapport avec la récolte. Et les outils, nous avons connu l'expérience avec Pressar, qui a déjà pris fin. La BAD avait donné des rapèzes. Donc c'était pour faciliter ce travail-là, pour arriver à avoir la farine. Et aussi, on doit identifier ou responsabiliser les structures partenaires quant à ça. Donc on doit savoir qui est professionnalisé dans cette production là-bas. Et un suivi et évaluation régulier dans cette mise en œuvre vaut son pesant d'or. Bien, au gros mot, gros remède, donc il faudrait qu'on mette des moyens. Je pense que pour moi, si on arrivait à arrêter ces stratégies-là et avec le suivi, on pourrait quand même arriver à rêver ce que le gouvernement voudrait que ce soit par rapport à la production de manioc.
Les moyens, c'est en termes d'outils, d'intrants?
Tous les moyens. Il y a des intrants, il y a des outils d'abord de production. Est-ce qu'on ne peut pas produire sur 50 hectares avec la houe? Non, il faut des tracteurs, il faut des machines. Et il faut qu'il y ait aussi des herbicides parce que le sarclage va poser problème sur toute la chaîne. La récolte surtout, qui va récolter sur 15, 20 hectares, 30 hectares? Comment il va récolter? Comment il va sécher? Tout ça, ça demande vraiment qu'on y mette vraiment des moyens et qu'on réfléchisse. Parce qu'il y a toujours un décalage entre la planification et la mise en œuvre sur terrain. C'est ce que nous demandons, qu'il y ait un suivi et l'évaluation à chaque étape de la stratégie. Mais sinon, c'est vraiment salutaire parce que le froment, nous, on n'en produit pas beaucoup chez nous, mais nous avons besoin de pain. Nous avons beaucoup d'espace pour produire le manioc.
Et comment le manioc produit au Kasaï peut être utilisé comme farine panifiable, étant donné que la province n'a pas de minoterie et moins encore de pâtisserie?
Nous sommes en train de promouvoir les petites et moyennes entreprises. Et si je dis que nous sommes dans l'industrie, en dehors de notre boulangerie, au niveau de l'Amiba, au niveau de Pont, il y a des petites pâtisseries à gauche, à droite, mais qui ne sont pas soutenues.
Monsieur Isidore, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était notre invité Isidore Chipanza, coordonnateur du conseil agricole rural de Kasaï Oriental. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mais vous pouvez continuer à les réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.